Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Regard Pluriel. Le sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui est le deuil. Et pour cela, je suis en présence d'Aurélie Ballet-Guignon, coach et hypnothérapeute exerçant à Tours et Montlouis-sur-Loire. Alors Aurélie, bonjour.
Bonjour Katia, bonjour à tous.
Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Donc effectivement, parler du deuil, parce que tu proposes notamment donc des accompagnements en fait autour de cette thématique-là. Est-ce que tu peux commencer par nous dire ce qu'est le deuil ?
Alors, on va peut-être revenir sur d'abord l'étymologie du mot deuil. Tout comme le mot douleur, en fait, le mot vient du latin dolere, qui signifie souffrir. C'est important de se le rappeler, car ça fait vraiment partie intégrante d'un deuil, à savoir d'un deuil juste et accompli. Le deuil, en fait, c'est une réaction, un sentiment de tristesse éprouvé à la suite de la mort d'un proche ou d'une perte. On le verra peut-être un petit peu plus loin. L'image que j'aime bien prendre, c'est que la perte, c'est un peu comme une amputation. Cette sensation qu'une partie de nous a été arrachée. Et c'est également et surtout un chemin de cicatrisation, de guérison, qui doit ensuite être emprunté par la personne qui vit ce deuil. Un chemin de convalescence, une vie différente. Le deuil, ça ne veut pas dire accepter l'inacceptable, surtout pas. Ça veut dire accepter que les choses ne seront plus pareilles, simplement.
Donc tu l'as plus ou moins en fait évoqué, c'est pour ça qu'en fait on parle également de deuil dans le cadre de la perte également d'une chose, pas uniquement en fin de compte de la disparition d'un proche. Donc de quelle autre perte en fait peut-il s'agir pour laquelle on peut parler de deuil ?
Alors oui, effectivement, un deuil ça peut être tout autre chose. Dès lors qu'il y a un changement, on estime finalement qu'il y a une perte. Un divorce, la survenue d'un handicap, un déménagement, un changement d'emploi qui peut être par exemple brutal, un licenciement, mais aussi le départ des enfants, la retraite et la perte, pourquoi pas aussi, de la jeunesse.
Moi, j'ai l'exemple en fait de voisins qui effectivement deviennent de plus en plus dépendants et leur difficulté, c'est de faire le deuil de ce qu'ils ne sont plus. Parce qu'il faut trouver d'autres activités, d'autres loisirs, et puis accepter que on ne peut plus aller à tel endroit quand on en a envie, mais qu'on dépend en fin de compte plus des autres. Donc, écoute, merci pour cette première définition. Alors, c'est vrai que quand on parle donc de deuil, il est souvent question de processus. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors, la psychologie parle effectivement de processus, c'est-à-dire que c'est un chemin, en fait. C'est le quoi faire dans un ordre prédéfini avec un point de départ et un point d'arrivée, un point de sortie. Moi, pour ma part, je préfère parler d'étapes du deuil. Vous avez d'ailleurs sans doute entendu déjà parler de la courbe du deuil qui a été établie par Elisabeth Kubler-Ross avec 5 étapes à compter de la survenance de l'événement. Donc c'est ça, en fait, le processus du deuil.
Bon, peut-être tu pourras au moins nous préciser quelles sont ces étapes, mais est-ce que en fait on passe par toutes ces étapes dans le cadre donc du deuil, ou bien est-ce que en fait on peut passer d'une étape à une autre ? Comment est-ce que ça se passe ?
Alors c'est exactement une bonne question, parce que finalement c'est un petit peu la difficulté de ce modèle, c'est que de façon quasiment obligatoire on a l'impression que la personne doit passer l'ensemble de ces stades, donc qui vont, pour rappel, avec le choc bien sûr de la perte, le déni, la colère, le marchandage et puis enfin l'acceptation. Simplement, en fonction du contexte de la perte, on peut par exemple déjà avoir accepté une partie de ce deuil. En tout cas, le choc et le déni sont déjà quelque chose qui a été effectué. Donc, c'est pas si simple que ça. Et le fait que ce soit quelque chose d'obligatoire peut parfois paraître un peu contraignant, un peu rigide. Moi, je préfère d'autres modèles qui peuvent rendre peut-être plus acteur la personne dans cette démarche, dans ce cheminement du deuil.
En tout cas, la finalité reste toujours la même. Il s'agit de l'acceptation, en fait. C'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui marque donc la fin d'un deuil. Moi, j'ai une question en fait à te poser particulièrement, puisque tu accompagnes des personnes qui sont dans une phase de deuil. Qu'est-ce qui permet en fin de compte d'identifier que nous sommes dans un parcours de deuil ?
Alors, automatiquement, comme il y a perte, il y a deuil. On l'a cité tout à l'heure, pas forcément la perte d'un défunt, mais dès lors qu'il y a un changement, il y a une perte. S'il n'y a pas de refoulement, les manifestations assez classiques sont très visibles. Elles sont très souvent émotionnelles, d'une part, la tristesse, les pleurs, la colère, parfois la culpabilité, avec des sensations physiques associées à ces états émotionnels, et puis des comportements psychosomatiques qui peuvent également apparaître, un sommeil perturbé, des troubles de l'alimentation, parfois un retrait social temporaire, l'envie un petit peu de se renfermer sur soi. Voilà, un certain nombre de choses qui peuvent être visibles et qui sont, rappelons-le, tout à fait normales dans le cadre d'un processus de deuil.
Et est-ce que le fait que la mort soit un sujet tabou dans nos civilisations, en fait, en tout cas dans nos sociétés occidentales, est-ce que ça vient interférer ces différentes manifestations? Est-ce qu'elles sont donc identiques d'un pays et d'une culture en fait à une autre? Et qu'est-ce qu'on peut dire en fin de compte sur ce sujet qui reste quand même tabou et comment en fait il peut s'expliquer?
Alors, c'est effectivement le cas dans nos sociétés occidentales. Moi, je dirais que c'est lié principalement à l'évolution de nos sociétés, un petit peu comme si le fait de ne pas parler de ce sujet, de ne pas prononcer d'ailleurs même ce mot mort, pouvait être une sorte de façon de la conjurer. Pourtant, on est tous conscients, et c'est peut-être aujourd'hui la lourde tâche que j'ai ici, c'est de nous rappeler qu'on est tous quelque part entre notre point de naissance et notre mort, et que c'est quelque chose qui fait partie de la vie et qui va tous nous arriver à un moment ou un autre. Alors peut-être tout simplement déjà parce que la mort nous fait peur, voilà, parce qu'elle nous rappelle aussi le fait qu'on est mortel, voilà, que notre vie a une fin et qu'elle est quelque chose aussi d'imprévisible. Peut-être aussi dans une société où on aimerait aujourd'hui un petit peu mieux maîtriser et plus contrôler, elle est l'incontrôlable.
Tout à fait. Et puis, elle représente l'inconnu, en fait. Il y a de ça, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a quelque chose, un monde après la mort ou pas, et si oui, comment, enfin, voilà. Donc, tout ça, évidemment, ça génère donc notamment des fantasmes. Est-ce que, du coup, maintenant que nous avons quand même, en fait, abordé donc cette phase de deuil, est-ce que, selon toi, en fait, il est important d'être accompagné lorsque finalement on vit un deuil, et si oui, donc pourquoi, comment, par qui, enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'accompagnement en fait autour du deuil?
Alors moi j'aimerais préciser et voir l'accompagnement au sens un peu large. Dans le deuil, il y a un temps pour tout. Il y a un temps nécessaire de repli, de ce que j'appelle l'hiver intérieur, qui est nécessaire. Bien sûr, le soutien de l'entourage bienveillant. C'est-à-dire quoi? C'est sans jugement, sans conseil. On a très envie souvent de donner des conseils, de dire « Allez, viens, je t'emmène, sors. » Voilà, il y a un temps pour tout. Donc ça, c'est essentiel. Mais l'important, c'est surtout de se connecter à ses propres besoins, de savoir exprimer à notre entourage si on a besoin d'être seul, si on a besoin d'être en contact, si on a besoin de sortir. Alors, il peut aussi y avoir un accompagnement par un thérapeute. Et là, ce qui est important, c'est que le thérapeute, lui, c'est un professionnel. Donc, il va pouvoir identifier où en est la personne, la rassurer peut-être sur les étapes, et puis mettre tout ce que l'on vit un petit peu en perspective. C'est-à-dire que lorsqu'on vit un deuil, on est dans le brouillard. Cette zone neutre-là qui est très inconfortable, qui survient juste après la perte. Et le manque de visibilité est très souvent une grosse zone de turbulence. Alors les thérapeutes qui sont formés à ça sauront donner un petit peu de sens à tout ça, de perspective, de l'espoir, qu'on sort d'un deuil. Mais il faut du temps et le soutien effectivement de l'entourage et d'un thérapeute peut être particulièrement aidant.
Oui, effectivement, je pense que c'est extrêmement donc complémentaire. Et puis, j'ajouterais juste aussi, moi, ce qui me vient, c'est que tu l'as plus ou moins dit, c'est-à-dire qu'en fait, un thérapeute a ce privilège d'être donc neutre, d'avoir cette distance que n'ont pas toujours en fait les proches. Donc, c'est ce qui permet en fait aussi, en tout cas, d'aborder les choses différemment et que la personne puisse aussi se confier. Parce qu'il y a certains propos, certaines choses qu'on ne peut pas dire, hein, voilà, à des proches pour X raisons, parce que c'est de l'ordre de l'intimité, parce que c'est quelque chose, voilà, qu'on a envie de garder dans le cadre du jardin secret. Et je pense que le thérapeute a aussi cette faculté-là. À quoi est-ce que, toi, tu pourrais comparer cette phase de deuil? Alors moi, j'ai vu beaucoup, en fait, en lisant autour du deuil, qu'on pouvait le comparer à des montagnes russes. De ton côté, finalement, qu'est-ce que ça t'évoque?
Alors moi, j'aime bien faire l'analogie avec les saisons... des différents cycles de vie, les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, qui alternent, mais finalement, ce sont des saisons qu'on va vivre tout au long de notre vie. Alors, on constate plus particulièrement, je l'ai dit déjà un petit peu plus haut, mais que la saison du deuil, c'est la saison de l'hiver. Voilà, c'est la saison du repli, c'est important, un petit peu comme s'il y avait ce besoin d'hibernation, de repli sur soi. Donc, j'aime bien faire cette analogie avec le cycle des saisons.
Ouais, c'est vrai qu'elle est très intéressante. Et du coup, est-ce qu'il y a en fait une corrélation en fait entre le critère de l'âge ou encore en fait celui de sexe? Est-ce qu'ils sont en fait déterminants dans le dépassement d'un deuil?
Alors, on sait qu'il y a certains critères qui peuvent rendre plus difficile le chemin du deuil. Au-delà du sexe, de l'âge, il y a notamment le contexte dans lequel survient le deuil. Si c'est un suicide, si c'est un décès brutal, voilà, une maladie. Si la personne endeuillée a pu aussi être présente pour accompagner cette fin de vie. La relation aussi entretenue avec le défunt, quelle place occupait la personne endeuillée dans la vie du défunt? notamment dans le lien de filiation. Et on sait que plus le lien était fort, plus il était court, et plus le deuil va être plus important à vivre. Et puis aussi, c'est important de le rappeler, de quelle nuance était teintée la relation. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'amour ? Est-ce qu'il y avait aussi, on le sait, dans les relations, parfois des rancœurs, des blessures, des traumatismes, parfois même. Et puis la personne endeuillée elle-même. C'est là où on peut évoquer éventuellement le contexte de vie dans lequel survient ce deuil. Est-ce qu'elle a du soutien ? Est-ce qu'elle a les ressources nécessaires ? Ou est-ce qu'elle en est elle-même dans sa vie ? Est-ce qu'il y a des résonances, parfois ? Donc c'est un peu au-delà finalement du sexe et de l'âge, c'est tous ces contextes-là qui vont faire que le chemin du deuil peut être plus ou moins long et différent selon chacun.
Alors j'aimerais aussi te poser la question suivante, en lien avec les complications dans la résolution d'un deuil, est-ce qu'elles sont possibles, est-ce qu'elles sont toujours possibles et quelle est notamment leur prévalence ?
Alors oui, on l'a dit un petit peu plus haut, ça dépend bien sûr du contexte du deuil, du lien de la personne. Et puis, parfois, des personnes n'arrivent pas non plus à accepter cette perte. Voilà, donc accepter le renoncement. Et auquel cas, on peut dire que le deuil, à ce moment-là, reste comme bloqué au début du processus. Dès lors qu'il n'y a pas cette acceptation de la réalité, la suite du chemin de deuil ne peut pas se faire. Alors on le sait, quand il y a deuil, pour le faire, il est nécessaire de le vivre pleinement. Moi, ce que j'appelle de plonger dans ces différents états émotionnels. Bien sûr, très souvent inconfortables, on le sait. De ne pas entrer en résistance. Voilà. Enfin, dans un dernier temps, bien sûr, une fois qu'on va avoir vécu tous ces états émotionnels, de pouvoir réussir à se réinvestir autrement dans la vie. Alors je prends toutes les précautions en disant cela parce qu'il n'y a rien d'aussi rigide, bien sûr, dans un parcours de deuil. En général, on estime qu'il faut à minima une année, de date à date, pour traverser le deuil. C'est-à-dire qu'il est important de vivre toutes les dates anniversaires, d'expérimenter le fait de vivre ces événements sans la personne disparue, dans un nouveau contexte, le premier Noël, le premier anniversaire sans la personne. Certaines études tendent quant à elles, à démontrer que c'est à peu près un tiers des personnes qui ont besoin, elles, de plus de 5 ans pour dépasser ce deuil.
C'est vrai qu'un an, ça me paraît court et long, en fait, en même temps, mais de toute façon, à chacun son rythme. Tu viens d'aborder, en tout cas, la notion de deuil non fait. Alors moi, je voudrais faire juste un petit parallèle avec la psychogénéalogie, évidemment. Un deuil qui n'aurait pas été correctement élaboré par un ascendant se transmet de génération en génération comme un fantôme dans un placard. J'aime à dire cette image, parce que je trouve qu'elle est très, très explicite et très représentative. Et il peut apparaître notamment sous la forme d'une maladie. C'est en tout cas l'expression, en fait, l'ultime expression. Mais en tout cas, il peut y avoir donc cette maladie. Alors, écoute, Aurélie, merci beaucoup. Merci d'avoir donc participé à cette émission Regard Pluriel. Donc, je rappelle Aurélie Ballet-Guignon, coach et hypnothérapeute exerçant à Tours et à Mont-Louis, proposant notamment des accompagnements donc auprès des personnes en deuil, en phase de deuil. Merci également à David donc Marion qui était à la technique. David qui quitte Radioactive pour d'autres horizons. Donc merci en tout cas pour tous tes accompagnements et plein de bonnes choses en fait à toi. Et vous pouvez donc réécouter cette émission comme d'habitude en podcast sur le site de Radioactive sur le www.radioactivefm.fr. Et à bientôt.